et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de nous parler aujourd'hui du traitement des déchets radioactifs en France.
Oui, il faut dire qu'après le grand débat national, les Français sont à nouveau appelés à se mobiliser et à donner leur avis dans le cadre du plan national de gestion des matières et déchets radioactifs, ou PNGMDR pour les intimes. Car comme l'explique le journaliste au Monde Pierre Le Hir, dans un pays aussi nucléarisé que la France, qui compte 58 réacteurs en activité, des usines de fabrication et de retraitement de combustible, l'ensemble de la population est en prise plus ou moins directe avec les déchets radioactifs. Des résidus bien souvent invisibles, cachés dans les méandres d'une installation scientifique ou emmenés au loin par les fils anonymes de trains banalisés.
Une carte publiée par l'association Greenpeace a d'ailleurs fait grand bruit en recensant les 70 principaux sites de stockage des déchets nucléaires.
Oui, une carte qui entend faire la transparence sur l'omniprésence des déchets atomiques disséminés autour de nous comme autant de traces indélébiles d'une industrie que l'on voulait croire propre. C'est ainsi une kyrielle de points jaunes, de lignes orangées qui maculent notre bel hexagone. Greenpeace retrace ainsi les lieux d'activité, mais aussi les lieux de passage, les gares, les routes où l'on fait transiter ces montagnes de déchets. L'objectif de l'association est ainsi de rappeler qu'au-delà du 1,6 million de mètres cubes répertoriés par les autorités, il existe une quantité phénoménale de matériaux radioactifs parsemant notre territoire sans être officiellement classifiés, cartographiés, identifiés pour le plus grand nombre.
Certains parlent ainsi d'un stock réel d'environ 200 millions de mètres cubes de résidus radioactifs en France.
Oui, ce sont les chiffres donnés par la Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, une association qui a mené plusieurs campagnes de terrain afin de mesurer la présence des matériaux actifs. Parmi ces déchets oubliés figurent ainsi les rebuts des activités minières, ces millions de tonnes de roches excavées pour atteindre l'uranium. Il faut en effet se rappeler qu'entre 1947 et 2001, 250 gisements d'uranium ont été exploités sur le territoire français. Or, ces roches contenant des métaux lourds radioactifs ont été bien souvent réutilisées pour emblayer les chemins, aménager des terrains de sport ou servir de soubassement à nos habitations.
Le journaliste du Monde nous parle ainsi de la petite ville de Guignon en Saône-et-Loire, dont le stade a été construit à proximité immédiate d'un de ses sites d'enfouissement.
Mais oui, 20 000 tonnes de déchets radioactifs déversés par une ancienne usine de traitement d'uranium exploitée jusqu'au début des années 80. Il a fallu attendre 2009 pour que le terrain vague soit interdit au public, gardé par une vague barrière aisément franchissable. Ce n'est qu'au début de l'année 2019 qu'un grillage a été installé et que le site a été classé. Comme le rappelle Le Monde, récupérer ces quelques 200 millions de mètres cubes, les conditionner et les transférer vers les centres de stockage serait un chantier colossal au coût faramineux. En attendant, c'est donc la quasi-totalité de l'hexagone qui est contaminée. C'est un poison qui s'écoule lentement, une tumeur imprégnée au grain même du bitume, des concrétions de roches envahies par l'atome. Et si ces résidus ont en réalité une faible radioactivité, ils pourraient néanmoins représenter un risque pour l'environnement et la santé. Un risque étalé sur une très longue durée puisque certains matériaux contiennent des isotopes de thorium-230, un élément radioactif qui ne disparaîtra que dans 750 000 ans. Difficile de dire ce qu'il restera alors de nos clôtures, nos barrières et nos interdictions.
Merci beaucoup Arjuna, et à vos côtés se trouve Guillaume Duval, notre partenaire d'Alternatives économiques. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Vous êtes venu avec le chiffre du jour, 16,3%.
Oui, c'était en 2017, la dernière année connue, la part de l'énergie que nous avons consommée qui était d'origine renouvelable. Cela fait de la France un très mauvais élève de la transition énergétique en Europe par rapport aux objectifs que l'Union s'est fixés dans ce domaine dans le cadre de ce qu'on appelle le paquet climat. Nous nous étions en effet engagés nous-mêmes en 2008 à ce que 23% de notre énergie soit propre l'an prochain. Et selon toute vraisemblance, nous n'atteindrons pas cet objectif.
Et alors comment se situent les autres pays sur ce plan, Guillaume ?
Nous sommes le deuxième pays le plus en retard en Europe sur ces objectifs 2020, derrière les Néerlandais. Mais 11 des 28 autres pays de l'Union les ont déjà dépassés en 2017. Et souvent dans des proportions importantes, de 6 points pour le Danemark et la Suède, de 3 points pour la Finlande, etc. Nous sommes aussi un des pays d'Europe où la part des renouvelables dans la consommation énergétique a le moins progressé depuis 2004, première année où ces statistiques ont été publiées en Europe. Entre 2004 et 2017, cette part n'a augmenté en effet en France que de 7 points contre 9 en moyenne en Europe, 21 au Danemark, 16 en Suède, mais aussi 12 en Italie. D'autres pays font certes encore pire que nous sur ce plan, mais en dehors une nouvelle fois des Pays-Bas, ce sont surtout des pays d'Europe centrale et orientale, comme la Pologne ou la Slovaquie. À l'inverse, cette part d'énergie d'origine renouvelable dépasse désormais 30%, le double de la France, en Suède, où elle est même supérieure à 50%, en Finlande, en Lettonie, au Danemark et en Autriche.
Et cela n'empêche pas cependant que nous soyons bien placés, Guillaume, en Europe sur le plan des émissions de gaz à effet de serre.
Oui, en effet, cela tient pour une grande part. Si on ne tient pas compte, en tout cas, des émissions de gaz à effet de serre associées aux produits importés que nous consommons et qui représentent désormais plus de la moitié des émissions dont nous sommes responsables, directement ou indirectement. C'est lié, et vous en avez déjà discuté abondamment, à l'importance de notre parc de centrales nucléaires dans la production d'électricité. Mais celui-ci est vieillissant. Selon les prévisions du gouvernement, en 2035, les 44 réacteurs nucléaires qui resteront devraient encore produire la moitié de notre électricité. Or, ces réacteurs auront alors en moyenne 49 ans de fonctionnement derrière eux et 10 d'entre eux même plus de 50 ans, à condition que les autorités de sûreté les autorisent à continuer à fonctionner au-delà de cet âge canonique. Du coup, le risque qu'ils tombent en rade du fait de leur vieillissement sera très fort et les conséquences risquent d'être d'autant plus graves qu'ils sont tous du même modèle. Si un défaut apparaît sur l'un d'entre eux, il y a de fortes chances qu'il se reproduise sur les autres. Autrement dit, en traînant autant les pieds pour développer les énergies renouvelables comme nous l'avons fait jusqu'ici, nous nous plaçons nous-mêmes dans une situation extrêmement dangereuse sur le plan de la sécurité de notre approvisionnement en électricité dans 15 ans.